France Inter.
Vous écoutez France Inter, il est 18h. Bonsoir Fabienne Synthèse.
Bonsoir Marie-Marine. À demain pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. On est heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Et bonsoir Céline Asselot.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, le débat sur la fin de vie relancé par l'annonce d'une prochaine loi.
Oui, le texte voulu par Emmanuel Macron sera débattu par les députés à la fin du mois de mai, mais déjà il suscite des positions très vives. La fin de vie, débat de société, mais aussi questions très intimes, on le verra au début de ce journal.
Et les autres titres, Céline?
À Gaza, le ramadan commence, mais pas de trêve à l'horizon. La ville de Rafah est toujours menacée, mais la situation se complique pour l'armée israélienne, nous dira notre correspondant à Jérusalem. En France, le bilan des crues s'alourdit. 5 morts dans le sud du pays, les habitants du Pas-de-Calais s'angoissent de voir l'eau encore monter. Gabriel Attal sur place a tenté de les rassurer et de faire pression sur les assureurs. Direction aussi le Royaume-Uni, où une photo de la princesse Kate et de ses enfants, visiblement modifiés, crée beaucoup de confusion.
Et on en parle avec Philippe Turl, il est journaliste britannique, il est chroniqueur à France 24.
On aura aussi de Spotify qui veut augmenter ses tarifs en France, les artistes font part de leur colère, et puis pourquoi pas des VO de fonction pour les salariés. La formule très populaire en Allemagne commence à faire des émules, on le verra dans les entreprises françaises.
Au sommaire du 18-20, c'est à Haïti que nous sommes. Pauvre Haïti, livré aux gangs et sans solution politique malgré les demandes des Nations Unies, les tentatives diplomatiques en Jamaïque en ce moment même. Nous allons ce soir à Fukushima, 13 ans après la catastrophe. Vous verrez que le film des Razzie Awards, les pires films de l'année, et comment dire, pires films de l'année. Franck Madvon vous raconte l'affaire du drapeau blanc et du pape vis-à-vis de l'Ukraine, et vous verrez que le rythme de la BO du monde, c'est celui du Sahara occidental avec Cyril Sauvageau. Le téléphone sonne en deuxième heure avec la loi pour l'aide à mourir dont les contours ont été dévoilés par Emmanuel Macron. On y revient dans le journal. Et vous, qu'en pensez-vous? Pas assez, déjà trop? Un pied dans la porte ou la boîte de Pandore? Ce sera le thème de notre discussion.
France Inter.
Ce ne sera donc ni un droit nouveau, ni une liberté.
Oui, c'est une possibilité, dit Emmanuel Macron, de demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes. On sent que les mots ont été pesés, pensés, pour tenter de satisfaire les partisans du suicide assisté, sans froisser ceux qui s'y opposent. Et pourtant, depuis hier, depuis l'annonce de ce projet de loi qui sera examiné à partir du 27 mai par l'Assemblée nationale, les critiques sont fortes. L'Église catholique parle d'une tromperie, les représentants des soignants dénoncent un projet qui va à l'encontre des valeurs du soin, alors que l'Association pour le droit à mourir dans la dignité salue de son côté une première étape et enfin un calendrier. La fin de vie, question intime, question difficile à aborder parfois. Bonsoir Sébastien Sabiron.
Bonsoir.
Vous êtes allé voir comment ce débat résonne dans une résidence autonomie pour seniors dans le 16e arrondissement de Paris.
Oui, à deux pas de l'Arc de Triomphe, un lieu où chacun dispose de son propre appartement. Ici, on se croise lors du café, des activités, et la mort est rarement un sujet de conversation. Sauf lorsqu'elle survient parmi les résidents, comme il y a quelques jours. Christian Laflèche a 76 ans, catholique non pratiquant, et favorable à cette loi sur la fin de vie.
J'ai du mal à m'imaginer, au bout, ne pouvant plus supporter la douleur, c'est atroce. On ne peut pas imposer à quelqu'un de souffrir encore plus. Pour moi, c'est de la torture.
Et Christian, de s'interroger déjà sur les limitations d'accès au suicide assisté, aux malades incurables avec pronostic vital engagé.
Mon frère a été dépressif et j'ai vu comme c'était dur dans sa chair. Donc effectivement, je crois qu'il va falloir bien penser aux maladies mentales.
À 83 ans, silhouette élancée, basket au pied, Gladys Plantin est une ancienne comptable et championne d'athlétisme. Elle n'imagine pas un instant décider de mettre fin à sa propre vie.
Je suis née en 40, sous les bombardements. J'avais une peur bleue des avions qui passaient en rase-marée. J'en ai des frissons en vous en parlant. Je n'accepterai pas que la mort arrive. C'est important plus que tout, c'est un don du ciel. On n'a pas demandé à venir. On nous met là comme une fleur. Il faut la cultiver, cette fleur.
La vie jusqu'au bout, c'est ça?
Jusqu'au bout, c'est sacré.
Et au-delà de toute considération religieuse pour Gladys, ce qui devrait primer, c'est la relation privilégiée entre le patient et son médecin, seule habilité, selon elle, à mesurer l'opportunité ou non de prolonger la vie.
Merci Sébastien Sabiron. Et donc le projet de loi sur la fin de vie au programme tout à l'heure de votre téléphone sonne, Fabienne. Parmi les autres textes qui seront débattus prochainement par les parlementaires, selon le calendrier dévoilé par le
gouvernement. Il y a la loi agriculture au menu des députés à partir du 13 mai. Les sénateurs se pencheront sur le projet de loi sur le logement décrié par la gauche. Il doit revoir la loi SRU qui fixe des quotas de logements sociaux dans les communes.
Il faut faire taire les armes à Gaza et libérer les otages pour faire honneur à l'esprit du Ramadan.
Oui, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui lance cet appel. Antonio Guterres s'alarme d'une possible offensive terrestre sur la ville de Rafah, ville surpeuplée dans le sud de la bande de Gaza qui ferait chuter, dit-il, la population encore plus profondément dans les cercles de l'enfer. Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir Céline,
correspondant de France Inter à Jérusalem. Alors c'est vrai que la menace plane toujours sur Rafah, même si ça se complique pour l'armée de l'État hébreu.
Oui, ça fait près d'un mois que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme à qui veut bien l'entendre que son armée livrera coûte que coûte la bataille de Rafah dans ce qu'il considère être le dernier bastion du Hamas. Sur le terrain, c'est beaucoup moins clair. Il n'y a aucun plan concret d'évacuation du 1,5 million de déplacés. Les troupes israéliennes combattent depuis plusieurs semaines maintenant à Khan Younes, c'est à une dizaine de kilomètres au nord, et elles ont du mal à prendre le contrôle de cette grande ville. La raison essentielle, c'est le manque d'hommes. Au début de l'année, l'armée a démobilisé 5 brigades à Gaza. Il en reste à peu près autant dans l'enclave et c'est aujourd'hui largement insuffisant pour mener la bataille de Rafah.
Et si l'armée israélienne manque d'hommes à Gaza, Thibault, c'est parce qu'elle est occupée ailleurs.
Ouais, notamment au nord d'Israël, où le Hezbollah, qui est au sud Liban, est plus menaçant que jamais depuis le 7 octobre. L'envoi régulier de roquettes en provenance justement du Liban ne permet pas à l'État hébreu d'alléger son dispositif. Et puis en Cisjordanie occupée, où la situation est inflammable avec les restrictions de déplacement imposées à la population palestinienne, à Gaza et à Rafah, Israël est donc contraint d'attendre, alors que les États-Unis sont bien décidés à ne pas laisser leur allié aggraver encore la catastrophe humanitaire en cours.
Merci Thibault Lefèvre en direct de Jérusalem pour France Inter. 10 explosions simultanées, 192 morts et plus de 1800 blessés. Voilà le bilan de l'attaque des attentats de Madrid. C'était le 11 mars 2004. Les terroristes d'Al-Qaïda avaient ciblé des trains en gare d'Atocha au cœur de la ville espagnole. 20 ans plus tard, le chef du gouvernement, le roi, la reine d'Espagne ont rendu hommage ce midi aux victimes d'un attentat qui a laissé beaucoup de traces dans la société espagnole. À Madrid pour France Inter, Mathieu de Taillac.
Les autorités ont prononcé leur discours. Le roi Felipe VI a demandé que l'attention aux victimes soit plus efficace et la coopération internationale renforcée. Pedro Sanchez a revendiqué le vivre ensemble et le respect. Et puis Maria Cristina, dont le mari est mort dans les attaques, s'est exprimée. Ce matin, comme tous les autres matins des jours anniversaires, elle a revécu ce moment terrible.
Son las 7 de la mañana.
Il est 7h. Je suis réveillée et j'attends, comme tous les 11 mars, qu'il soit 7h37. On ne peut pas éradiquer le mal qui constitue explicitement et implicitement le terrorisme, mais on peut l'affronter en évitant de laisser seules les victimes.
Evitando dejar solas a las víctimas.
Être à nos côtés n'est pas une tâche facile.
No es tarea fácil.
C'est l'endroit du courageux.
El lado del valiente.
C'est le chemin à suivre. Et aucun autre.
Este y no otro es el camino a seguir.
Au-delà de l'émotion, Maria Cristina a dit sa déception que le crime arrive 20 ans après à la prescription et qu'il ne soit pas considéré de lèse-humanité. Au-delà du souvenir et de l'hommage, les victimes demandent que leurs revendications soient prises en compte par les institutions. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
Et depuis ces attentats de Madrid, le 11 mars, c'est chaque année la journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme.
Et pour cette journée de commémoration, le gouvernement français avait choisi cette année le Pas-de-Calais.
Oui, c'est à Arras que Gabriel Attal a présidé l'hommage de la France aux victimes. Arras, où l'enseignant Dominique Bernard a été tué il y a 5 mois par un ancien élève radicalisé. Le Premier ministre a salué le travail des professeurs. La victoire de l'école sonnera le glas de l'obscurantisme, a-t-il dit au cours de la cérémonie. Gabriel Attal qui s'est ensuite rendu une nouvelle fois au chevet des sinistrés du Pas-de-Calais. Le département est toujours sous la menace des crues. La Somme, la Canche ont été placés en vigilance jaune par Vigicru après avoir été touchés ces derniers mois par plusieurs épisodes d'inondations. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Vous suivez ce déplacement de Gabriel Attal qui, par sa venue, veut maintenir la pression sur les assureurs, sur les élus, alors que la situation paraît par endroits figée.
Oui, il y a 2 mois, ici, on circulait en barque ou en tracteur. 90% du village de la Caloterie a été touché et ce n'est malheureusement pas terminé.
Là, ce matin, on n'avait rien. En l'espace de 2 heures, il y a 75 cm qui est monté entre nous et le voisin. C'est un vrai torrent. C'est impossible de vivre comme ça. Parce que là, cette nuit, ça va encore monter plus. On ne vit plus, quoi, en fait.
Et si on lance des gros travaux, c'est justement pour que vous ayez plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc là, on simplifie tous les délais pour les travaux, on met gens pour les travaux. On a un préfet dédié à la reconstruction avec une équipe de 15 personnes.
Elle s'apprête à nouveau quitter son domicile à cause des grandes marées. Gabriel Attal cherche, lui, la parade. Faut reconnaître qu'il y met du sien, glisse un élu local. Un préfet dédié, donc avec 10 millions de plus. Un délai divisé par deux pour le versement des indemnités par les assurances et 11 jours de gagnés. Les curages simplifiés deux mois de plus. Ici, depuis novembre, les pompes fonctionnent 7 jours sur 7.
Merci d'accepter d'héberger les pompes sur votre pont parce que ça protège tout le quartier. C'est 40 cm par heure.
40 cm d'eau par heure si les pompes s'arrêtent. À une demi-heure de là, Saint-Étienne, Aumont, même constat.
Il faut être conscient qu'il y a à peu près, je pense, 5 habitants actuellement dans la rue. Moi, je ne peux plus habiter chez moi non plus en ce moment.
Les maisons sont inhabitables.
Ouais. Notre objectif, c'est que vous puissiez rester dans votre quartier.
Nous, pour le moment, à l'heure d'aujourd'hui, on est la rue des oubliés.
C'est justement contre ce sentiment, la rue des oubliés, que le Premier ministre tente de se battre. C'est pourquoi il fait du Pas-de-Calais sa terre prioritaire, conscient qu'il faudra d'autres visites et des résultats visibles cet automne.
Maxence Lambrec, depuis le Pas-de-Calais, avec les moyens techniques de Raymond Alboui. Dans le sud de la France, le bilan s'alourdit encore avec un cinquième corps retrouvé par les secours, un octogénaire emporté par la crue du fleuve Hérault sur la commune du Pézenas. Dans le Gard, 4 personnes sont mortes et 2 enfants sont toujours portés disparus. Un homme également porté disparu en Ardèche sur la commune de Saint-Martin de Valamas. Plusieurs services de l'État visés par une série d'attaques informatiques. Le mode opératoire est rudimentaire, mais l'intensité est inédite, c'est ce qu'on apprend ce soir. L'accès au site de l'État a été rétabli, une cellule de crise a été mise en place à Matignon. On y revient tout à l'heure dans le prochain journal à 19h. Et puisqu'on parle d'informatique, cette justification étonnante de la part de la princesse Kate au Royaume-Uni après la confusion autour d'une photo très officielle, publiée hier, la montrant avec ses 3 enfants. Plusieurs agences de presse avaient décidé de dépublier cette image car elle semblait avoir été modifiée. « Eh bien, c'est ma faute », dit la princesse de Galles. « Comme beaucoup de photographes amateurs, je m'essaie parfois à l'édition et je voudrais, dit-elle sur le réseau social X, présenter mes excuses. »
Bonsoir Philippe Thörl.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste britannique, vous travaillez notamment pour France 24. Ça sent quand même la grosse panique dans la famille royale, Philippe Thörl. Jamais une photo, au fond, pour faire taire des rumeurs n'avait autant alimenté les rumeurs. Là, la justification, le pardon de l'avoir modifié, tout ça sent vraiment que rien ne va dans cette séquence, en fait.
De mémoire, je ne me souviens pas d'avoir vécu une expérience pareille où une photo de la famille royale a été retirée par 5 agences en Grande-Bretagne qui ont décidé de ne pas le publier parce que il semble que cette photo avait été, vous avez correctement dit, modifiée par la princesse elle-même, d'après ce qu'elle a dit plus tard. Là, ce qu'on est en train de vivre en Grande-Bretagne, c'est 2 choses. La première chose, c'est que la famille royale voulait rassurer le peuple sur la condition de la princesse. C'est complètement raté. Mm-hmm. Et la deuxième chose, c'est que la famille royale a sémé le doute sur leur honnêteté de sortir des informations correctes. Donc, cette capacité de sortir cette photo et on essaye de rattraper le coup derrière pour dire, bah, finalement, c'est la princesse elle-même qui a modifié la photo, a eu l'effet de provoquer plus d'angoisse, plus de questions, alors que c'était le contraire que la famille royale voulait obtenir.
Et on cherche à rattraper le coup, Philippe Thörl, avec une autre photo, cette fois, où on la voit dans une voiture, mais c'est presque pire, parce qu'on la voit à peine, ça aurait pu aussi bien être pris l'année dernière. Qu'est-ce qui ne va pas, en fait ? Est-ce que, selon vous, ce qui ne va pas, c'est qu'il y a effectivement quelque chose à cacher ? On est quand même en train de parler de maladie, et ça parle de couple héritier du trône, donc ça dit quand même des choses. Ou est-ce qu'on est simplement en train de parler d'un aquaplaning de communication, donc c'est moins grave ?
Je vais être honnête avec vous, je n'en sais rien, parce que c'est tellement flou, c'est tellement confus en ce moment, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On n'a pas vu la princesse de Galles depuis Noël. Elle était hospitalisée jusqu'au 29 janvier. On l'a pas vue en public depuis. Elle devait revenir vers le public pour Pâques. Maintenant, on apprend que ce sera peut-être plus tard, peut-être au mois de juin. Donc, dans le doute, évidemment, tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qui va pas ? Nous ne savons rien. Et donc, ces photos, la première photo, c'est raté. On a demandé la photo d'origine Buckingham Palace, donc la maison du roi, a dit non en sortirant pas la photo d'origine, la photo non retoquée. En contrepartie, ils avaient une autre photo aujourd'hui où on voit la princesse dans cette voiture, mais on la voit tellement
exactement.
Mal. On ne sait pas si c'est vraiment elle et dans quelles conditions elle est. Ce soir, nous sommes vraiment dans le flou complet.
Est-ce que ça veut dire, Philippe Perle, il y avait une espèce de pacte de non-curiosité malsaine entre la famille royale et la presse britannique au début de la maladie de Kate? Est-ce que ça veut dire que tout ça va exploser, en fait, hein, et que désormais, l'espèce de préservation de leur vie privée va sauter jusqu'à ce que quelqu'un sache effectivement ce qui se passe auprès de la princesse Kate? Donc, est-ce que cette espèce de pacte de non-agression a sauté?
Alors, c'est évidemment un risque. Je pense que la presse joue le jeu avec la famille royale, mais là, évidemment, on va dire, bah, écoutez, la famille royale ne joue pas le jeu avec nous. Donc, c'est assez périlleux pour la famille royale sur le long terme, parce que non pas seulement nous n'en savons rien sur la condition de Kate. Là, évidemment, on a des images, mais on ne sait pas de quelle image il s'agit, etc., quand ça a été pris. Et donc, ça, c'est encore plus le doute. Il y a des gens en Angleterre qui disent, mais on ne peut pas les prendre au sérieux. Mm. Et donc, évidemment, derrière tout ça, il y a quelque chose qui est caché, on n'en sait rien. Donc, nous voulons savoir. Les réseaux sociaux sont complètement avides de ces informations. Et au lieu de calmer les réseaux sociaux, les gens qui veulent absolument savoir tout savoir sur la famille royale, on a vu aujourd'hui quelque chose qui va avoir un effet adverse. Ça veut dire que maintenant, ça va être encore plus compliqué pour la famille royale et on a besoin d'informations. Et alors qu'avant, on n'aura jamais su ce qu'elle avait, Kate. Mmh. On ne sait toujours pas ce qu'elle a. Maintenant, c'est à la famille royale de nous sortir des informations pour calmer les esprits.
Philippe Turl, journaliste britannique à France 24, invité de ce journal. Merci beaucoup.
L'actualité ce soir, c'est aussi la colère des artistes français contre Spotify. Le géant suédois de l'écoute en ligne va augmenter ses tarifs en France. Et uniquement en France, où l'abonnement sera bientôt le plus élevé de l'Union européenne. Spotify explique que cette augmentation est liée à une nouvelle taxe. Bonsoir Adrien Serrière.
Bonsoir.
Et cette communication agace au plus haut point dans la sphère artistique.
Oui, sur les réseaux sociaux, Yael Naïm, Woodkid, Pomme, Isia s'agace notamment face aux explications de Spotify. Pour certains artistes, la plateforme se victimise car Spotify dit ne pas pouvoir absorber de taxes supplémentaires. En l'occurrence, la taxe streaming mise en place cette année qui prélève 1,2% du chiffre d'affaires des plateformes pour les allouer au Centre National de la Musique, le CNM. Selon Spotify, l'État crée un intermédiaire supplémentaire entre les artistes et leurs auditeurs. Mais ce n'est pas l'avis des principaux concernés, les artistes, comme le chanteur et DJ Anorak, ancien membre du groupe Pony Pony Run Run.
En fait, c'est un peu prendre en otage émotionnel les consommateurs de musique et en plus de s'attaquer à l'État, en fait. Je trouve ça complètement hallucinant, en fait. Enfin, vraiment. Moi, en tant qu'artiste, en tous les cas, ça me fait... ça m'hérisse un petit peu les poils. Ça me paraît normal qu'il y ait une taxation de cet ordre-là qui, a priori, n'est pas si dingue que ça, en plus. Enfin,
et Yanorak rappelle que le CNM permet de financer des projets. Un jeune artiste me disait aussi sous couvert d'anonymat que cette communication de Spotify est détestable au regard des profits générés par le groupe et des sommes dérisoires reversées aux artistes. Et à la colère du monde de la musique s'ajoute celui des usagers de Spotify avec un prix de l'abonnement qui risque d'atteindre 15€ contre 11 aujourd'hui.
Merci Adrien Serrière pour toutes ces précisions.
Et si vous alliez travailler demain en vélo de fonction?
Oui, on n'est pas très habitué à cette formulation et pourtant ça se développe, des vélos loués par les entreprises pour leurs salariés avec option d'achat à la fin de la location. En Allemagne, on en compte entre 800 000 et 1 million, beaucoup moins en France. La pratique est encore marginale avec moins de 100 000 vélos au total, mais on en croise de plus en plus, comme au sein de cette entreprise parisienne où vous vous êtes rendu, Mathilde Bouquerel.
Alors, on est au sous-sol de Cabza, par lequel j'arrive tous les matins pour garer mon vélo. Et aujourd'hui, il est garé juste ici.
Quentin Carlier utilise son vélo électrique de fonction et le garage à vélo flambant neuf de son entreprise depuis un an.
Ça permet de profiter un peu de Paris, c'est quand même sympa. Et j'avoue que je ne suis pas un grand fan de l'expérience métro. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de lumière et aussi il y a toujours des contraintes, on ne sait pas quand on va arriver, etc. Alors c'est possible d'arriver en retard avec un vélo, si, je ne sais pas si on déraille ou si on... Mais, enfin, franchement, c'est beaucoup moins contraignant.
D'après la Fédération des acteurs du vélo en entreprise, on atteindra les 100 000 vélos de fonction fin 2024, 10 fois plus qu'en 2022. Une croissance rapide que constate Jean-François Dino, président du loueur de vélos d'entreprise Asphalt.
L'impact carbone des trajets, notamment les trajets domicile-travail, peut représenter jusqu'à 30% de l'impact carbone d'une entreprise. Et comme les entreprises sont de plus en plus conscientes, voire pénalisées si elles ne mènent pas des actions sur leur bilan carbone. Elles ont ce type d'action.
D'après lui, le développement du vélo électrique a aussi permis de démocratiser ce mode de déplacement.
C'est plus facile avec un peu d'électrique. Reportage de Mathilde Bouquerel pour France Inter.
Merci beaucoup Céline Asselot. À tout de suite dans Un jour dans le monde, vous passerez sous les radars. Dans un petit quart d'heure, un peu plus maintenant, un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur euromaster.fr.
Élodie Calac, bonsoir. Une journée humide demain encore.
Oui, bonsoir à tous. Sur le nord-est jusqu'au nord des Alpes, ce sera encombré demain avec un petit peu de pluie le matin, plus éparse quand même l'après-midi. Il neigera un peu au-dessus de 1000 mètres. Entre la Normandie et le Pas-de-Calais, là, de nouvelles pluies s'inviteront le matin avec du vent. Ce temps glissera vers le bassin parisien, la Champagne et les Ardennes pour l'après-midi. Ailleurs, on aura souvent beaucoup de nuages, quelques gouttes possibles le matin. Ça s'éclaircira un peu l'après-midi des Pyrénées vers le Lyonnais et le sud de la Bourgogne. Je rappelle que 6 départements sont toujours en vigilance orange pour les crues. Charente-Maritime, Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Puy-de-Dôme, Lyon et la Saône-et-Loire. Et puis pour avoir du soleil demain, eh bien direction la Méditerranée, Fabienne, mais avec du vent jusqu'à 70 km à l'heure.
Et les températures sont en baisse?
En hausse,
avec
de la douceur plutôt le matin, 4 à 11 degrés. L'après-midi, température globalement de saison, 10 à 15 degrés le plus souvent, jusqu'à 16 sur le sud-ouest, 18 en Méditerranée. Et ça va continuer à monter pour la semaine.